France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Magie, masque et montage, Orson Welles, c'est ce samedi dans Plan large avec Frédéric Bonneau et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. C'est l'événement cinématographique de cette rentrée. Pour la première fois, une rétrospective la plus exhaustive possible est consacrée à l'œuvre aussi célèbre que secrète de ce géant et magicien du cinéma qu'est Orson Welles. On y retrouve bien sûr ses plus grands chefs-d'œuvre, de Citizen Kane à Vérités et mensonges, en passant par les classiques du film noir que sont La Dame de Shanghai et La Soif du Mal, ou les shakespeariens Macbeth, Othello et Falstaff. Mais on y retrouve surtout toute une multitude de fragments, de films inachevés ou mutilés, de spectacles de magie et inventions télévisuelles, sans parler de nombre des films où il faisait l'acteur pour financer les siens. Le tout accompagné, événement dans l'événement, d'une proliférante exposition, My Name is Orson Welles, qui plonge les visiteurs, qu'ils connaissent l'œuvre ou la découvrent, dans la vie et l'art d'un artiste qui se révèle encore plus complet qu'on ne le croyait. C'est la visite de cette exposition que nous vous proposons aujourd'hui, avec comme guide son commissaire, par ailleurs directeur de la Cinémathèque française, le critique de cinéma Frédéric Bonneau. Il s'est adjoint pour l'occasion les conseils scientifiques et avisés de deux grands spécialistes de l'œuvre, Estève Riambeau et François Thomas. Un troisième homme aurait pu se joindre à l'aventure si la maladie qu'il a emportée le 12 septembre dernier ne l'en avait empêché. C'était le grand critique, historien et enseignant en cinéma Jean-Pierre Berthomé, spécialiste mondial du décor au cinéma et de l'œuvre du cinéaste, à qui il avait consacré un indispensable Orson Welles au travail en 2002. Il a marqué des générations d'étudiants de la faculté de Rennes. J'ai eu moi-même la chance de bénéficier de ses lumières lors de stages de ciné-club et cette émission lui est très affectueusement dédiée. Mathieu Macheret, qui dans un instant rôdera avec nous dans les coins et recoins de l'exposition Welles, nous parlera en fin d'émission d'un autre grand cinéaste infiltré dans le système des studios, japonais en l'occurrence. C'est la découverte Chusei Sone, dont deux sidérants romans porno inédits en France viennent d'être édités en Blu-ray. Mais pour l'heure, puisqu'on est au début de l'émission, on commence par un générique de fin avec la plus belle des voix off. C'était pour La Splendeur des Ambersons en 1942.
Ladies and gentlemen, The Magnificent Ambersons was based on Booth Tarkington's novel. Stanley Cortez was the photographer. Mark Lee Kirk designed the sets. Al Fields dressed them. Robert Wise was the film editor. Freddie Fleck was the assistant director. Edward Stevenson designed the ladies' wardrobe. The special effects were by Vernon L. Walker. The sound recording was by Bailey Fessler and James G. Stewart. Here's the cast. Eugene, Joseph Cotton. Isabel, Dolores Costello. Lucy, Ann Baxter. George, Tim Holt. Fanny, Agnes Moorhead. Jack, Ray Collins. Roger Bronson, Erskine Sanford. Major Amberson, Richard Bennett. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. This is a Mercury production.
Bonjour Frédéric Bonneau.
Bonjour.
Merci de nous accueillir doublement chez vous, puisque vous êtes à la fois le directeur du lieu et le commissaire de cette exposition. Merci de venir faire la danse de l'ours pour nous parler de cette exposition Orson Welles, où on est accueilli par un double portrait, jeune homme de 23 ans, un vieillard qui est aussi un jeune homme de 23 ans. On a d'ores et déjà un Orson Welles complexe et qui s'avance masqué.
Oui, c'est-à-dire que Welles, dès ses débuts d'acteur professionnel au Gaîté Théâtre de Dublin, en Irlande, se spécialise dans les rôles de vieillard. Et donc, la première fois que cet homme, qui est une célébrité, on dirait aujourd'hui, un personnage public bien avant Citizen Kane, la première fois qu'il fait la une de Time Magazine, qui est à l'époque le plus grand magazine américain, et ben il est grimé en vieillard, parce que à Broadway, il joue dans une pièce, il joue le rôle d'un vieux capitaine dans une pièce de George Bernard Shaw. Et donc, on s'est amusé à montrer d'abord l'original de cette une de Time Magazine, de l'agrandir pour que les gens la voient bien, et puis de montrer le vrai Orson Welles à 23 ans, qui est un jeune homme très mignon, plutôt poupin, et avec un tout petit nez qu'il haïra toute sa vie et qu'il essaiera à toute force de changer.
Voilà, les faux nez d'Orson Welles sont légendaires. On le voit à la fin de l'exposition dans une fameuse rubrique à braque de Gottlieb. C'est aussi la couverture de votre catalogue. Une fois qu'on a enlevé la jaquette, ce sont tous les masques d'Orson Welles. Alors, Orson Welles, c'était pas le dernier des menteurs. Hein, et c'est pas pour rien que Vérité et mensonges, c'est comme ça que va s'appeler un de ses tout derniers films. Comment est-ce qu'on fait d'un homme qui est toujours trop, comme vous dites dans le texte d'introduction, en citant un de vos conseillers scientifiques, comment on fait quand cet homme est une multitude, comme il le dit aussi souvent, pour faire une exposition d'un homme comme ça? Est-ce qu'on doit aller vers la vérité, vers le mensonge, ou articuler les deux?
Non, ça rend plutôt humble, c'est-à-dire qu'on se retrouve face au labyrinthe Welles. Tout est labyrinthe chez Welles. L'œuvre est un labyrinthe, la vie est un labyrinthe. Cet homme est insaisissable, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans la situation. Évidemment, il avait tout prévu du journaliste de Citizen Kane, à qui son rédacteur en chef demande ce que peut bien signifier Rosebud. Ben voilà, face au labyrinthe wellsien, on se dit qu'il n'y a peut-être pas de Rosebud, mais tout ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose qu'il aurait peut-être détesté, c'est mettre un peu d'ordre, c'est de rendre les choses à peu près lisibles, et d'essayer de faire une introduction avec beaucoup d'humilité à une œuvre cinématographique majeure, puisque Orson Welles est depuis fort longtemps déjà le synonyme d'auteur de film, le synonyme d'artiste en cinéma, vraiment un artiste en cinéma, ben voilà, c'est Orson Welles, et qui est aussi une personne un peu déplacée et qui aura le sens du déplacement toute sa vie, puisque c'est un intellectuel en cinéma. Ça a l'air évident, mais dans les années 30 ou 40, c'est tout sauf évident.
Alors vous faites un peu comme l'enquêteur dans le mystère Arkadine. Monsieur Arkadine, vous partez sur les traces de l'homme, et alors vous avez trouvé effectivement son enfance et son adolescence, surtout en Irlande. Très belle photo d'un Orson Welles sur sa charrette tirée par un âne. Il est d'abord peintre itinérant, et ça, c'est une des beautés de cette exposition, c'est de découvrir le Welles plasticien, presque.
Oui, c'est vrai que elle était connue, cette photo, hein, la photo de la carriole avec l'âne. Il est d'une telle jeunesse, d'une telle beauté, enfin, il a l'air triomphant, et c'est vrai que l'histoire est magnifique. Welles en Irlande, c'est un type qui se pointe au Gaîté Théâtre à Dublin, qui est tenu par deux grands acteurs irlandais, qui sont un couple à la ville. Ça doit pas être complètement courant, même au théâtre à Dublin, dans la première partie des années 30. Et Welles, avec un culot d'acier, leur dit « Mais je suis un grand acteur de Broadway, du théâtre new-yorkais, il faut que vous m'engagiez. » Les deux, évidemment, ne le croient pas, parce qu'ils sont tous au fidio. Mais celui qui sera son Iago dans Othello dit, il y avait une telle vitalité chez lui, il émanait de lui une telle énergie qu'on a fait semblant de le croire et on l'a embauché. Donc il devient acteur professionnel pour la première fois de sa vie en mentant comme un arracheur de dents à Dublin dans les années 30. Ensuite, il essaiera de réitérer le même coup à Londres, d'où il se fera expulser manu militari parce qu'il n'a pas de certificat de travail. Et c'est comme ça qu'il se retrouvera enfin à New York, à Broadway.
et où c'est peut-être la première des prophéties autoréalisatrices d'Orson Welles. Il se présente en escroc à Dublin comme grand acteur de Broadway, et quand il retourne aux États-Unis, il devient le grand acteur de Broadway, le grand metteur en scène de Broadway.
Oui, il y a quelqu'un qui dit, je ne sais plus qui a une sorte de, une série d'explosions successives. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est engagé par quelqu'un qui est très connu à Broadway, qui s'appelle Catherine Cornell, qui a une troupe permanente, donc il est d'abord engagé vraiment comme comédien. Après, il va créer sa propre troupe, c'est là où John Huseman va intervenir, et en fait, on tombe vite sur le Welles politique, c'est-à-dire qu'il s'insère dans un programme qui est totalement nouveau pour les États-Unis. En France, le théâtre subventionné depuis la Libération, on sait à peu près ce que c'est. Les États-Unis, en fait, ont commencé plutôt avant nous. C'est-à-dire que dans les années 30, dans le New Deal rooseveltien, on donne aussi de l'argent pour le théâtre. D'abord pour donner du travail aux acteurs en chômage, et ensuite, évidemment, un peu aussi pour l'édification des masses. Et donc, Welles va faire ce prodige qu'on appelle le Macbeth vaudou. C'est-à-dire qu'il va à Harlem avec une troupe du Fédéral Théâtre qui s'appelle Negro Unit. Donc les choses sont claires. Il va faire jouer Macbeth uniquement par des acteurs noirs. Un Macbeth vaudou, donc les sorcières écossaises deviennent des sorcières haïtiennes. Et il avait coutume de dire que ça a été un tel succès que Harlem était bloqué sur 5 blocs avant le théâtre et 5 blocs après le théâtre. Il disait, depuis, je n'ai fait que des choix, en fait. Ce qui est amusant, c'est que Jean Cocteau, qui faisait le tour du monde à ce moment-là et qui passait par là, a vu ce Macbeth vaudou. Et c'est vrai qu'avec ce Macbeth vaudou, l'impression que ça fait sur les spectateurs, Welles devient littéralement une star new-yorkaise. Et donc, il va pouvoir créer sa troupe, le Mercury, avec John Huseman, où il va accumuler les coups d'éclat, disons. Et le coup d'éclat d'après, donc cette fois-ci, c'est plus le Fédéral Théâtre, c'est vraiment le Mercury, il va mettre en scène un Jules César de Shakespeare, dont il est un immense admirateur, mais beaucoup plus que ça, un exégète, un pédagogue de Shakespeare. Jules César, alors là, c'est pas vaudou, c'est chemise brune. Alors maintenant, évidemment, on a vu des Andromaques, des Bérénices, à peu près toutes les pièces classiques revisitées par le nazisme, etc. Ça serait complètement banal. À part qu'à l'époque, d'abord, ça n'a jamais été fait, et puis c'est contemporain. C'est-à-dire que c'est le Welles, jeune homme progressiste, très marqué à gauche, très rooseveltien, mais vraiment sur l'aile gauche hein, de Roosevelt, qui s'inquiète très fort de la montée des fascismes en Europe, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et donc, il met en scène la pièce de Shakespeare, Jules César, en chemise brune, et on le voit sur les photos, en congrès de Nuremberg, de façon très claire.
Précisons que le jeune homme dont on parle a 21, 22 ans.
Mais c'est fou, il est d'une précocité incroyable. Et en fait, là, on va voir les essais que Hollywood lui demande de tourner pendant ces années-là.
Oui, parce qu'Hollywood, forcément, quand quelqu'un a réussi à Broadway, tout de suite, on s'y intéresse.
La puissance d'Hollywood est telle à l'époque qu'il suffit qu'il se passe quelque chose, que quelqu'un apparaisse quelque part, pour que Hollywood s'y intéresse immédiatement et se dise, en gros, il nous le faut. Donc, il se passe un truc avec ce type qui s'appelle Orson Welles. Alors, il pense à lui, non pas comme un metteur en scène, encore moins comme un intellectuel, mais comme un jeune premier, parce qu'en plus, il est mignon comme tout. Et donc, il va y avoir des essais qu'on retrouve très facilement d'Orson Welles en train de passer des essais pour des majors hollywoodiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tellement pressé, lui. Il est en train de devenir le roi de New York, il a sa troupe, il adapte ce qu'il veut, et en plus, il a trouvé la radio. C'est-à-dire que la radio, à l'époque, est vraiment le seul média de masse, et donc, en adaptant ce qu'on appelle toujours sur France Culture des dramatiques, non ?
C'est les fictions, maintenant.
Eh ben voilà, donc il va faire le Tour du Monde en 80 jours, le Comte de Monte Cristo, Les Misérables, adapté Dickens, avec sa troupe du Mercury. Il fait de la radio de façon intensive, ça l'épuise, ça lui rapporte beaucoup d'argent, donc avec le fric de la radio, il maintient à flot le théâtre, qui évidemment est un gouffre sans nom. Et Roosevelt, par exemple, avec lequel il était un peu ami, le connaissait comme une star de la radio, pas du tout comme une star de cinéma. Et chez la radio, qui va finir par le conduire à Hollywood.
Roosevelt était lui-même une star de la radio, donc d'une star à l'autre, on pouvait s'estimer. On arrive ici dans le début de la légende, c'est-à-dire qu'on a cette adaptation phénoménale de La Guerre des Mondes d'un autre Wells, H.G. Wells, sans eux à la fin, qui va provoquer une panique telle dans tous les États-Unis que... Et ça, je n'avais jamais vu encore, Wells va commencer à recevoir ses premières lettres d'insultes. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Wells, ça sera le cas tout au long de sa carrière. Et ici, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux lettres très, très gratinées et très violentes qu'on voit affichées juste avant cette salle où on peut entendre des extraits de La Guerre des Mondes?
Mais le fait est que ce tout jeune homme qui est irrésistible, parce qu'il a vraiment une bonne bouille quand même, on le voit aussi avec ses différentes photographies où même il pose en smoking quand même, hein, au micro de CBS, donc c'est vraiment la star. Il se conduit très mal parce qu'il adapte La Guerre des Mondes, donc un roman, disons, de science-fiction de H.G. Wells qui raconte comment une invasion martienne déferle sur les États-Unis. Le problème, c'est qu'il va un peu loin dans le réalisme. Il a jamais été très clair là-dessus. Mais enfin, il espère bien que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il espère bien que sa fumisterie va réussir et que les gens, les auditeurs, vont vraiment croire que les Martiens sont en train d'arriver. Alors, on a fait des pointages. Ça a été très travaillé. C'est l'émission de radio la plus célèbre du monde, hein, La Guerre des Mondes par Orson Welles. Toute époque et tout pays confondu. On pense qu'il y a à peu près 8-9 millions de personnes qui ont écouté l'émission et on pense qu'il y a à peu près 1,5 à 2 millions qui y ont cru. Mais qui y ont cru, ça veut dire qu'ils ont été saisis de panique, qui sont sortis de chez eux, qui scrutaient le ciel en attendant l'invasion martienne qui évidemment n'est jamais arrivée. Donc oui, vous avez raison, il y a des auditeurs, des juges qui disent en gros, vous êtes un personnage épouvantable, vous êtes un irresponsable, la guerre menace en Europe, ça quand même ils étaient au courant. Et vous, vous nous faites le coup de l'invasion martienne. Donc il se fait quand même très, très sévèrement engueuler, tant et si bien qu'il est obligé de présenter ses excuses, de donner des explications évidemment fausses, en disant « je n'ai jamais voulu ça ». Tu parles, il était trop content en homme de spectacle que ça ait marché, donc il présente ses excuses, et comme il l'a dit lui-même dans un de ses films beaucoup plus tard, au lieu d'aller en prison, eh ben cette fois-ci il est allé à Hollywood. C'est-à-dire que La Guerre des Mondes, c'est ça qui est intéressant, lui a permis l'incroyable célébrité que ça lui donne, même si c'est une célébrité un peu douteuse, hein, en effet, la célébrité que ça lui donne lui permet de faire monter les enchères. Et comme il est très intelligent, il ne monte pas les enchères sur son salaire hollywoodien ou sur le budget de son film. Il monte les enchères sur son degré de liberté par rapport au studio. Donc c'est comme ça qu'il va débarquer à Hollywood et signer avec la RKO un contrat de producteur, auteur, réalisateur, acteur, comme on n'en a pas vu depuis les temps assez lointains, quand même, de Eric von Stroheim ou Charlie Chaplin.
Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission.
Alors, nous avons fait comme Orson Welles, nous avons franchi la Guerre des Mondes et nous sommes allés à Hollywood. Nous arrivons dans cette première grande salle double consacrée à Citizen Kane. Et Citizen Kane, c'est peut-être le grand paradoxe d'Orson Welles. Et c'est un peu comme Jean-Luc Godard avec À bout de souffle. C'est son plus grand film, c'est son film le plus célèbre, c'est celui qui est le plus acclamé, même s'il n'a pas très bien marché à l'époque. On y reviendra. Et toute la carrière de Welles, ça sera aussi peut-être de dire, bon, il y a Citizen Kane, mais c'est pas tout.
C'est sa chance et sa malédiction, vous avez raison. Mais ce qui m'a toujours épaté, c'est qu'il a relevé le défi. C'est-à-dire que oui, il arrive à Hollywood avec en gros les pleins pouvoirs sur un film, à condition quand même de respecter le budget et que le studio soit d'accord sur l'histoire, etc. Hein, c'est pas non plus, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Mais surtout, il relève le défi. C'est-à-dire que ce type qui est tellement attendu au tournant, c'est le moins qu'on puisse dire, réalise avec Kane un prototype d'un genre totalement nouveau. Et qui est reconnu comme tel par ses contemporains qui sont à peu près armés et compétents pour le faire, c'est-à-dire par les critiques de cinéma. Il y a un critique de cinéma, on l'a mis dans le catalogue, qui écrit « C'est le meilleur film américain jamais réalisé jusqu'à présent, et c'est le meilleur film américain qu'on ne réalisera jamais. » Quand même, c'est pas mal. Donc le seul problème qu'il a avec Kane, qui est un film où il a toute liberté. On lui a pas imposé une image, on lui a pas retiré une image. C'est un film de lui, voulu par lui, à 100%. Le problème qu'il a, c'est que un des modèles de Kane, le principal, même si ce n'est pas le seul, le milliardaire William Randolph Hearst, prend tout ça très mal, d'ailleurs on peut parfaitement le comprendre, et donc interdit le film de sa presse, pas un mot sur le film dans les journaux Hearst, et surtout le film n'est pas diffusé dans les salles de cinéma qui appartiennent à Hearst. Et donc les commanditaires, les actionnaires de la RKO, qui ont mis quand même un petit million de dollars dans cette affaire, eh ben ne voient pas revenir la couleur de leur argent. Or le cinéma américain, c'est pas la France, c'est pas un cinéma subventionné. Donc les actionnaires, ils perdent leur argent. Et donc la chance de Welles, qui a accouché de ce chef-d'œuvre reconnu comme tel, et d'ailleurs il faudrait s'interroger comment vous, moi, tout le monde, on arrive encore une fois à voir Citizen Kane. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film, alors qu'on le connaît par cœur, où on peut très bien supporter une 10e vision, une 11e vision, une 20e vision? Citizen Kane est un film qui ne lasse jamais. Ça, c'est un des grands mystères de l'histoire du cinéma. Il n'empêche que, évidemment, il sort de Citizen Kane, non pas renforcé dans sa position, mais affaibli. Et là, c'est le début des ennuis.
Nous voici rejoints par Mathieu Macheret, qui sera le Falstaff du jour dans cette exposition. Alors, évidemment, difficile de parler de Citizen Kane. On pourrait passer, et j'en ai fait une émission entière, toute notre promenade dans cette exposition sur le film. Un film qui est resté pendant 50 ans considéré comme le meilleur film du monde selon les votes des critiques de la revue Sight and Sound. Et c'est aussi un film qui est presque devenu un objet culturel, un objet de la pop culture, un objet qui habite non seulement toute l'histoire du cinéma, mais on le retrouve dans des bandes dessinées, à la télévision. Enfin, on est toujours hanté par Citizen Kane, Mathieu Macheret.
En effet, il a été pastiché de mille et mille manières, Citizen Kane. C'est pas seulement le premier long métrage d'un jeune homme de 24 ans, c'est aussi le coup d'envoi de la modernité au cinéma. On reconnaît que naît là quelque chose de nouveau au cinéma qui l'emmène vers son âge moderne. C'est pas anodin de la part d'Orson Welles, qui a en effet commencé avec les télécommunications modernes, avec la radio, hein, c'est-à-dire avec cette onde qui se répand partout. Et pourquoi Citizen Kane est un film considéré comme moderne? Parce que c'est un portrait in absentia. C'est un film qui se fait presque sans son personnage principal. C'est un film en creux. Donc ça, c'est très étonnant. Et surtout, ça inaugure quelque chose de Welles qu'on connaît aujourd'hui très bien, qui va se répandre dans le reste de son œuvre. C'est-à-dire, Welles, c'est l'inventeur du fake. Hein. Alors ça peut être le phoné, la prothèse, le costume, mais le fake comme fausse information. Aujourd'hui, ce qu'on appelle fake news dans notre ère de la post-vérité. Mais toute son œuvre, c'est ça. C'est de mélanger l'histoire et la légende. C'est de confondre le mythe et sa réalisation. Et ce sera évidemment quelque chose qui se répand jusque dans F for Fake, Vérité et Mensonge, etc. Enfin, voilà, il invente une sorte de réalité alternative qui fait toute la substance de la fiction.
Rose Budnick.
Now, wait a minute.
I thought they burnt that.
Alors, il invente aussi des objets. Là, on est dans une petite salle qui m'évoque beaucoup l'exposition que Dominique Paigny avait consacrée à Alfred Hitchcock au musée d'Orsay et à Montréal avant ça, parce qu'il y a les objets. Des objets parfois réinventés qui, alors je préviens tout de suite les auditeurs, les auditrices qui n'auraient jamais vu Citizen Kane, ne vous aventurez pas dans le coin de la boule et neige parce qu'il y a du spoiler. Mais c'est un peu le spoiler voilà. Le plus célèbre de l'histoire du cinéma.
On va vous dire ce qu'est que Rosebud, attention.
Vous saurez ce qu'est Rosebud. Alors évidemment c'est encore à phoner, là encore dans la narration du film, mais ça m'amène à penser Comment est-ce qu'on conçoit une exposition sur un personnage à la fois aussi célèbre et aussi méconnu, sur un film aussi célèbre que Citizen Kane dans cette salle, et où il y a pourtant encore des choses à dire? Est-ce qu'on pense à ceux qui vont découvrir Wells dans cette exposition, ou à ceux qui le connaissent par cœur?
Mais alors, ça s'adresse aux deux, évidemment, mais ça se veut encore une fois une introduction à l'œuvre d'Orson Welles, et ça se veut surtout une invitation à voir les films d'Orson Welles, c'est-à-dire que dans une exposition de cinéma, il y a des bouts de films. Alors, on a essayé de les monter entre eux, de les ordonner le mieux possible, mais l'intérêt, c'est d'aller voir les longs-métrages, surtout quand on les connaît pas. Citizen Kane, ça reste un film, effectivement, même si l'expression est galvaudée, totalement inépuisable, et surtout, pour vous répondre, quand on fait une exposition sur Welles, eh bien, on n'accepte pas tout à fait la vérité établie, même par la plus grande critique française, et même par peut-être le plus grand des critiques français. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme André Bazin, qui est un de mes dieux, hein, je ne m'en cache pas du tout, je viens de cette école critique-là, modestement, considère qu'en gros, Citizen Kane, c'est le comble du réalisme, ça fait sourire aujourd'hui. C'est-à-dire que Citizen Kane, c'est un objet d'art parfaitement clos sur lui-même. Je pense qu'en peinture, ça s'appellerait une vanité, très exactement, mais le réalisme de Kane, un plan sur trois est truqué dans Citizen Kane. Il y a même des profondeurs de champ qui ont beaucoup impressionné Bazin à l'époque, qui avait tout à fait raison d'adorer le film, hein, ne nous y trompons pas. Mais il y voyait un réalisme et une façon de concilier, disons, Orson Welles et Roberto Rossellini, qui me paraît un peu exagéré. Kane, c'est vraiment pas Romeville ouverte, quoi. Mais franchement pas. Ça serait même plutôt l'inverse. Donc, c'est une causa mentale, et presque. C'est une pure construction mentale. Et je pense que c'est pour ça que le film reste aussi fascinant. Parce que cette boule à neige, là, qu'on voit, qui est un objet rond, clos sur lui-même, qu'on tient dans la main, et dont l'écoulement, là, ça marche pas très bien, mais normalement, les flocons de neige tombe à l'infini, et bien Citizen Kane, dans sa forme, ressemble exactement à ça. C'est presque un objet qui est sans aspérité et qui est fait pour être un objet de pure fascination. Ce que ne seront pas les autres films de Welles. Et c'est important de le dire. Parce que pour comprendre Welles, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui, tout naturellement, ne fait que des prototypes. Il ne peut pas faire deux fois le même film. C'est pas qu'il veut pas. Il en est incapable et ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. C'est pour ça que Kane, aujourd'hui, les gens qui vont le découvrir, qui auront la chance de voir pour la première fois Citizen Kane, découvrira non pas un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mâché, pré-mâché, prêt à l'emploi, mais un véritable prototype qui peuvent les laisser complètement circonspects et en plein désarroi. C'est possible aussi.
Ah ben dans ceux qui sont restés circonspects et en plein désarroi, on les retrouve dans le catalogue. Il y a Sartre, il y a Borges, qui n'ont manifestement rien compris du tout au film. Alors, on va passer un peu rapidement, malheureusement, parce que l'exposition est ample, mais sur ce qui se passe à Hollywood après. Pour Orson Welles, les splendeurs des Amberson s'annonçaient comme un autre chef-d'œuvre consécutif. Et puis, c'est le début des emmerdes. Les studios vont tripatouiller les films. Et Mathieu Macheret, c'est très compliqué de savoir vraiment, souvent, ce qu'aurait voulu faire Welles. Dans la plupart de ses films, notamment les films américains, de La splendeur des Amberson à La soif du mal, il faut presque aller chercher dedans ce que les studios n'ont pas pu toucher pour atteindre le génie de Welles qui est toujours là.
Oui, c'est vrai qu'une des dimensions, je pense, les plus importantes de l'œuvre wellsienne, c'est celle de l'inachèvement. C'est une part qui est très importante parce qu'il y a presque autant de matériel filmé abouti de Welles que de matériel filmé qui reste inabouti, qui reste à monter, qui reste à faire, comme son dernier film d'ailleurs qui avait été terminé par Netflix bien des années plus tard et par le monteur Peter Bogdanovich qui est réalisateur aussi par ailleurs. Mais Welles, c'est ça, et ça commence avec La splendeur des Amberson, qui a un casus belli terrible avec les studios, qui inaugure l'ère de sa conflictualité infernale avec les studios hollywoodiens. Hein, il y a une opposition qui a toujours été très forte entre ceux qui sont arrivés à Hollywood comme artistes et puis voilà, la structuration industrielle des studios. Et Welles va être évidemment au milieu de ça et petit à petit broyé par ça. Mais je pense que c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut voir les films de Welles. Hein. C'est toutes les potentialités qu'il libère, tous les films qu'ils auraient pu être, tous les doubles films, les triples films, tous les faunés de films qui se cachent derrière ces films. C'est ça, c'est une dimension infinie. Ce qui fait que quand on met un pied dans son œuvre, bah, finalement, on n'a jamais fini de s'y balader.
Oui, en plus, il faut bien dire que La Splendeur des Ambersons, c'est le plus grand drame de l'histoire du cinéma mondial, avec Les Rapaces d'Eric von Stroheim. C'est-à-dire, c'est les deux films qui ont été littéralement éviscérés par les studios et qui nous manquent le plus. Et les gens qui avaient pris la direction de la RKO, qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient embauché Wells, donc ils ont voulu se venger, en fait, ils ont quand même immergé en mer les rushs et les versions intégrales de La Splendeur des Ambersons pour être sûr qu'on ne les retrouve jamais. Donc il y a une volonté de détruire et une volonté de nuire à ce film qui, de l'avis de Wells lui-même, et du mien et de quelques camarades wellésiens, aurait été, dans sa version complète, celle voulue par Orson Welles, encore un film plus important que Citizen Kane. Donc La Splendeur des Ambersons, Mathieu a raison, il nous reste la première heure, qui est à peu près celle qu'a voulu Welles, et après c'est absolument n'importe quoi. Mais quand même un mot sur l'histoire de l'inachèvement. C'est vrai que Welles a laissé des films inachevés, mais l'important c'est de se demander pourquoi. D'abord, il y a les circonstances, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui se servait de ses cachets, de la publicité, que ce soit d'abord à la radio ou ensuite à la télévision, pour financer ses propres films. Donc à un moment, ben, tout simplement, il n'avait plus de ressources. Donc ses films ont été inachevés la plupart du temps, faute de budget. Il est tourné quand il pouvait, comme il pouvait, avec qui il pouvait. Donc il y a des acteurs qui sont morts. Juan Luis Buñuel, dans le dernier numéro de Positif, qui a été son assistant sur le fameux Don Quichotte, raconte qu'il l'a vu pleurer parce qu'il disait « Mais mon Don Quichotte est mort, c'est plus le même acteur. Comment tu veux que je m'en sorte ?» Et il a vu Orson Welles pleurer. Donc, bien sûr que c'est vrai qu'il y a des films qu'il n'a pas terminés. Il en a quand même terminé 12. C'est le même nombre que Stanley Kubrick, exactement. Donc, ça nous fait 12 prototypes. Et par ailleurs, si comme Mathieu le dit très bien, c'est un artiste moderne en cinéma, Welles, qui a déjà reproché à Picasso de ne pas terminer une toile ? Personne. Qui a déjà reproché à un romancier de ne pas terminer un roman ? Qui a déjà douté que le geste de faire était plus important que le geste d'arriver ? Il est temps quand même que le cinéma sorte un peu de son provincialisme, devienne un art contemporain et un art moderne. Terminer un film, ce n'est pas tout. Ce qui est important, c'est de construire et d'apporter au cinéma des choses qu'il ne connaît pas. Or, Orson Welles, c'est ça. C'est extension du domaine du cinéma. Alors, il y a des inachevés. Ça nous donne à penser. Eh bien, merci, Monsieur Welles.
C'est très exactement ce que dit Bertrand Mandicot, le cinéaste, poète et peintre et tout ça, dans le catalogue de l'exposition, que la beauté d'Orson Welles réside précisément dans ce geste d'inachevé. Mathieu Macherey.
Il y a d'ailleurs, sur cette question de l'inachèvement, une société d'intelligence artificielle ces derniers temps qui a proposé de compléter les 45 minutes manquantes de La Splendeur des Ambersons. On n'est pas sûr que ce soit la solution qui aurait beaucoup plu à Welles.
C'est pas un des moindres plaisirs de cette exposition que, caché derrière des tentures en biais, n'hésitez pas à vous glisser dedans. Il y a une partie résolument d'analyse de films, ou en tout cas de mise en avant des inventions précisément du grand moderne décrit. Ça va être l'utilisation du plan séquence, et notamment le plan séquence extraordinaire et un peu m'as-tu vu aussi de l'ouverture de La Soif du Mal, mais la question de la profondeur de champ, du montage rapide, de la contre-plongée, pourquoi est-ce qu'il fallait faire cet exercice de pédagogie, Frédéric Benoît ?
Je me suis dit que pour une fois, ça serait bien de séparer les choses. C'est-à-dire qu'on montre des documents, on montre des photographies, on montre des affiches, on montre des storyboards, on montre des documents écrits, etc. Cette exposition se veut riche en documents, mais qu'est-ce qu'on fait des films ? Et donc, d'habitude, on a tendance à mettre des petits écrans au milieu des affiches et à les mélanger. Là, j'ai voulu vraiment qu'il y ait trois petites salles de cinéma. Et ces trois petites salles de cinéma, dans le parcours de l'exposition, sont consacrées à ce qu'on a appelé, avec Steve Riambeau et François Thomas, des figures de style. C'est ce que vous venez de dire. L'usage intensif de la contre-plongée, le montage rapide, c'est quelqu'un qui avait très très bien vu les films d'Einstein, d'Abel Gance ou de Griffiths, le plan séquence, bien sûr, ou alors cette façon incroyable, alors ça il est le seul à ma connaissance à faire ça au cinéma, c'est on arrête l'action et il y a quelqu'un qui raconte une histoire dans les films de Wells, une fable, un monologue. Donc voilà, trois salles de cinéma faites de montage des films de Wells pour dégager qu'est-ce que c'est l'originalité de son écriture cinématographique.
And now I'm going to tell you about a scorpion. This scorpion wanted to cross a river. So he asked the frog to carry him. No, said the frog, no, thank you. If I let you on my back, you may sting me, and the sting of a scorpion is death. Now, whereas the scorpion is the logic of that, for scorpions always try to be logical, if I sting you, you will die. I will drown. So the frog was convinced and allowed the scorpion on his back, but just in the middle of the river, he felt a terrible pain and realized that after all, the scorpion had stung him. Logic, cried the dying frog as he started under bearing the scorpion down with him. There is no logic in this. I know, said the scorpion, but I can't help it. It's my character. Let's drink to character.
Alors, Wells, immense cinéaste américain, mais très grand cinéaste européen aussi. Après ses déconvenues à Hollywood, c'est sur le continent européen, en particulier en Espagne, qu'il va trouver son bonheur. Et on peut dire que quand il fait un Othello, par exemple, tourné en Espagne avec très peu de moyens, mais finalement, l'inventivité dont il faisait preuve quand il avait tous les moyens qu'il voulait avec le grand train électrique de la RKO n'est en rien diminuée par l'absence de moyens, bien au contraire.
Ben voilà, vous avez dit l'essentiel. À part Cotello, je vous reprends juste là-dessus, et plus italien et marocain qu'espagnol, mais ne vous inquiétez pas.
L'argent est espagnol,
voilà,
peut-être.
On se trompe tous. Ben, l'argent, il est italien au départ, et puis surtout, c'est Wells qui le trouve, l'argent. Et l'argent, il le trouve en courant le cachet, évidemment aussi dans le film qui est derrière nous, en face d'Otello, film un peu connu, à cause d'un certain air de musique, qui s'appelle Le Troisième Homme. Non, mais vous avez raison. Othello, moi, c'est peut-être l'aventure wellésienne qui me fascine le plus. C'est-à-dire qu'après ses années hollywoodiennes, après son mariage et son divorce avec Rita Hayworth, il se retrouve en Europe, un peu seul au monde, hein, quand même, en espérant que son copain Alexandre Korda, le grand producteur hongrois, va lui payer des films. Korda n'en fait rien, et donc il se retrouve seul, et c'est quelqu'un qui recommence. Well, c'est ça. C'est quelqu'un qui recommence sans arrêt, qui n'a jamais une position avec le moindre confort. Le confort lui est absolument interdit. Et donc, il va faire Othello en tournant sur plus de 2 ans, sur fonds propres. C'est le premier film autoproduit de l'histoire du cinéma européen. Et c'est fait quand même par un Américain qui a fait Citizen Kane 10 ans avant. C'est quand même une histoire de fou, cette histoire. Il fait Othello. Il parvient à le terminer. Il finit pas ses films, la preuve. Il parvient à le terminer. Il a le Grand Prix au Festival de Cannes, c'est-à-dire l'équivalent de la Palme d'Or. Et c'est là où il devient littéralement et définitivement le héros de la critique européenne et en particulier française, et de ceux qui deviendront les jeunes turcs de la nouvelle vague. C'est-à-dire que cette capacité de réinvention de Wells, c'est tout ça à partir d'une pièce de Shakespeare quand même, où lui-même, Wells, joue un mort, c'est-à-dire un noir. Vous voyez les questions aussi contemporaines que ça peut poser. Othello, c'est peut-être, de toutes les réinventions wellésiennes, c'est peut-être la plus ardue et la plus spectaculaire.
Et on retrouve, on découvre plutôt Mathieu Macheret à ce moment-là, un homme qui est capable de totalement recomposer le monde, non pas en studio, comme c'était le cas pour Citizen Kane, mais à partir du monde où qu'il soit, en témoignent les raccords sidérants dans le procès, par exemple, entre une scène tournée parfois à 1000 km de distance en champ contre champ. Wells, c'est l'homme qui s'empare du monde pour le faire sien.
Mais je crois qu'en effet, Welles, c'est un constructiviste. C'est un héritier d'Eisenstein, des soviétiques. C'est un cinéma du montage. Mais plus encore de l'image cristal, hein, dont parlait Deleuze, c'est-à-dire des angles prononcés, des contrastes forts, du rapiéçage, du raccord, etc. Tout ça, c'est travaillé par Welles. Et évidemment qu'il est un constructiviste, mais dans un sens de culture encore plus large, parce que c'est un homme-monde, en fait. Il renferme plusieurs mondes, Welles. Il y a bien sûr Shakespeare, qui est déjà plusieurs mondes en soi, mais c'est presque quelqu'un des Mille et une nuits, du manuscrit trouvé à Saragosse, de Jean Potocki, tous ces romans qui renferment des milliers d'histoires. Et c'est un peu ça aussi, peut-être, l'orientalisme secret dans l'œuvre de Welles. On parlait du Macbeth vaudou. Là, ici, il y a le Othello avec le personnage de mort. Mais lui, qui a si bien capturé les prestiges et les illusions de la modernité occidentale, il a un fil rouge oriental qui est peut-être le contre-modèle possible dans ce monde du XXe siècle.
Before the law, there stands a god. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the god cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the god. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the god. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each guard is more powerful than the last.
Alors, à force de tourner en Europe, mais en même temps de se promouvoir à la télévision américaine, dans des publicités, à faire la danse de l'ours à laquelle je faisais référence tout à l'heure, Orson Welles devient vraiment, sur la fin de sa vie, une figure très paradoxale. D'une part, il était trop en avance et le nouvel Hollywood ne l'a pas attendu, et hormis Brian De Palma, personne n'a voulu de lui. Il va faire toutes ces publicités qu'on peut voir à la fin. C'est un personnage de la pop culture américaine aussi. Et il va partir en même temps dans le versant le plus radical peut-être de son œuvre. Et encore une invention, le film essai. C'est le cas pour ses derniers films, notamment F for Fake, Vérités et mensonges. Comment ça s'articule là encore ces deux parties d'Orson Welles, l'Orson Welles des plateaux télévisés qui chante avec Dean Martin et celui qui nous emberlificote la tête avec ses vérités et ses mensonges?
Eh ben, c'est un baroque. Voilà, à un moment, il faut dire le mot. Orson Welles est le plus grand des cinéastes baroques, et le baroquisme, que Mathieu a qualifié d'orientalisme à assez juste raison tout à l'heure, le baroquisme lui est naturel. C'est-à-dire que c'est un baroque qui questionne la question de l'identité. C'est ça, son truc. Orson Welles, Citizen Kane, c'est ça, dès le début. « Je ne sais pas qui je suis ». Dit Mr. Arcadine, Iago dans Othello, qui est un personnage bien plus intéressant que Desdemone ou Othello. Le personnage le plus intéressant d'Othello, c'est bien sûr le traître, c'est Iago, qui dit « I am not what I am ». C'est la phrase de Shakespeare, c'est vertigineux. Le roi de Falstaff, à la fin, dit « Je ne suis plus celui que j'étais, vieil homme, et je te renie, et maintenant tu es mon cauchemar. J'ai passé des années à rêver d'un gros bouffon aviné comme toi, mais maintenant c'est terminé. » Donc voilà, Welles, c'est ça, c'est vraiment ce qui en fait un personnage et un cinéaste si moderne et si contemporain, c'est qu'on est vraiment dans les vertiges de l'identité. Alors ces vertiges de l'identité, vous avez raison, il l'éprouve dans sa propre silhouette, il l'éprouve dans son propre corps, il l'éprouve dans sa propre schizophrénie, on pourrait presque dire. À part que ce n'est pas une vraie schizophrénie. Parce que, oui, il se vend. Il se vend comme l'artiste moderne dans le monde commercial contemporain est obligé de se vendre pour survivre. De ce point de vue-là, il a aussi inventé beaucoup de choses qui sont vraiment beaucoup d'actualité.
C'est un personnage warholien, quoi.
Absolument, c'est un personnage warholien, c'est tout à fait ça. Il se vend à la publicité, il se vend dans des très mauvais films où il fait des apparitions plus ou moins grimées, peinture lurée. Mais en revanche, dans les films, l'intégrité des films est absolue. Il préférera même ne pas les finir plutôt que de montrer quelque chose qui ne serait pas digne de lui et digne de son ambition. C'est-à-dire qu'Orson Welles, il y a une morale, elle est contestable, comme toutes les morales, mais en gros, pour gagner de l'argent, pour nourrir ma famille, pour payer mes films, je peux faire à peu près n'importe quoi et je ne m'en prive pas. En revanche, quand c'est mon œuvre, quand ce sont mes films, l'intégrité, mon intégrité, par rapport au cinéma, doit être absolu. Donc c'est encore un paradoxe, mais Welles, il n'y a que des paradoxes. C'est un intellectuel américain, un homme de haute culture, qui a lu, dévoré des livres absolument toute sa vie, et qui a été récupéré par la pop culture, qui se retrouve chez Gottlieb, chez Guido Crepax, qui fait les meupettes avec Kermit la grenouille et qui le peint, voilà, qui est capable de faire les choses les moins nobles, et qui, à côté de ça, a commencé sa vie en écrivant des manuels de compréhension de Shakespeare. Parce que c'est pas seulement un metteur en scène et un acteur de Shakespeare, c'est un exégète de Shakespeare. Donc vous voyez, il y a toujours ces choses opposées chez Welles, et puis évidemment la multiplicité des talents. Personne ne savait que Welles était aussi capable de faire des sculptures. Il y a pour la première fois dans cette exposition une sculpture de lui-même en roi lire, avec ses bâtons misérables à la fin du roi lire sur la lande. On aurait préféré voir le film. Je suis bien d'accord. Mais il nous reste la sculpture. Comme il y a ces boîtes de cigares. Absolument ce magnifique. Type s'est rendu célèbre avec son gros Havane, son Roméo et Juliette, son bâton de chaise. Qu'est-ce qu'il faisait de ces boîtes de cigares? Eh bien, il dessinait des personnages shakespeariens, et en particulier Falstaff, son personnage préféré au monde, celui qu'il a le mieux interpréter, avec la force de ce mot, interpréter, ces boîtes de cigares, il dessinait dessus des autoportraits de lui en Falstaff qu'il offrait à ses amis. Voilà, ça c'est tout Welles, et je dois dire qu'on est très content de montrer au public français, parisien, pour la première fois, ces dessins de Shakespeare dessinés sur boîte de cigares.
Une des beautés de cette exposition, c'est aussi d'aller puiser dans les grandes collections de machines de la Cinémathèque française, pour voir la caméra Mitchell avec laquelle a été tournée Citizen Kane, pour voir une caméra portable,
le Caméflex,
voilà, qui lui permettra de changer encore une fois sa grammaire, même cinématographique, et puis ce grand banc de montage sur lequel se clôt cette exposition. On imagine ce qu'Orson Welles aurait fait avec un smartphone aujourd'hui, sans doute qu'il se serait régalé.
Alors là, vous avez vraiment tout à fait raison. Il y a quelque chose d'assez bouleversant chez lui, c'est l'allègement par rapport aux outils du cinéma, par rapport aux instruments du cinéma, qui, comme on le sait tous, sont d'une lourdeur effrayante. Quand il découvre pour la première fois le studio de la RKO, ce garçon qui n'a jamais fait de cinéma professionnel de sa vie, hein, il dit cette phrase devenue célèbre, c'est le plus beau train électrique qu'on puisse offrir à un garçon. Et il va en faire bon usage. Il n'empêche que cette lourdeur du cinéma, cette lourdeur technique, cette lourdeur machinique, quand il découvre les pellicules rapides, les caméras légères, mais il s'en empare avec une sorte d'euphorie d'artiste, c'est-à-dire qu'il change de palette, littéralement, et effectivement, dans ce processus d'allègement où on passe des, je sais pas combien elle pèse, 30 kilos de la caméra Mitchell au Caméflex qu'on peut presque tenir dans une main, qu'est-ce qu'il aurait fait avec le numérique? Quel film aurait-il réussi à faire avec un simple téléphone portable? Effectivement, ça, c'est une question qui fait rêver et qui est un peu une des questions en creux de l'exposition, oui.
Alors Mathieu Macheret, vous avez découvert la première fois cette exposition maintenant, devant ce micro. Un mot de conclusion de ce tour très rapide que nous venons d'effectuer?
À travers les 1000 visages de Welles, ceux qu'il se compose et ceux qu'il affiche, moi c'est peut-être la figure du prestidigitateur qui reste. Elle est à la fois archaïque et moderne, comme Welles qui part du théâtre pour arriver aux télécommunications. Et il y a un petit film de Jacques Rosier fait pour la télévision où on le voit réaliser ses tours en direct, et c'est peut-être ça qui est le plus émouvant, c'est la prestidigitation. C'est peut-être une façon de faire du cinéma, mais sans plus du tout de caméra. Voilà, la caméra a quasiment disparu et l'illusion demeure.
Merci à tous les deux.
Brush up your Shakespeare. Start quoting him now. Brush up your Shakespeare and the women you will wow.
Just declaim a few lines from Othello and they'll think you're a heck of a fellow.
That's right. If a blonde won't respond when you flatter her, tell her what Tony told Cleopatra.
If her virtue at first she defends well, just remember that all's well that ends well.
Yeah, yeah, yeah. Brush up your Shakespeare and they'll all bow. Oh, it is the East.
L'exposition My Name is Orson Welles est à visiter jusqu'au 11 janvier. La rétrospective à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 29 novembre. Et le tout s'accompagne de nombreuses publications qui s'ajoutent à la déjà considérable somme d'études welsiennes. Il y a déjà l'excellent catalogue de l'exposition, il est à la table ronde. Les deux spécialistes du cinéaste François Thomas et le regretté Jean-Pierre Berthomé ont rencontré un grand nombre de ses compagnons de route et en ont tiré un passionnant leur Orson Welles aux impressions nouvelles. Pour entendre la voix du maître, ses géniaux entretiens avec son disciple, le cinéaste Peter Bogdanovich, sont réédités aux éditions Capricci sous le titre de « Moi, Orson Welles ». Et pour faire la part des choses, Orson Welles, Vérités et mensonges, c'est le titre d'une nouvelle biographie signée Anka Visday aux éditions de l'Archipel. Pour en savoir plus sur Citizen Kane, on vous renvoie à l'émission que nous avions tout entière consacrée à ce chef-d'œuvre inaugural dans la série Les films qui ont changé le monde. C'était le 25 juillet 2022 et c'est à podcaster. Comme la nuit de France Culture, son nom était Orson Welles, diffusé le week-end dernier. Ceci annoncé alors que le grand homme chante à la télévision avec Dean Martin les vertus de Shakespeare pour séduire les femmes, il est temps d'éloigner les chastes oreilles de votre poste de radio. Une femme qui, dans un love hotel, épuise de son désir insatiable un homme ivre, dégoté dans un bar, dans des cadrages baroques et des images mouvantes. C'est une scène d'Angel Guts, Classe Rouge, un des 5 romans porno inédits en France, que vient d'éditer en Blu-ray les toujours étonnantes éditions du Chat qui fume. Les romans porno, à ne pas confondre avec les Pinku Eiga, c'était dans les années 70-80 la grande spécialité de la plus ancienne des majors du Japon, la Nikkatsu, là où Shohei Imamura avait fait ses débuts avant le tournant érotique pris par le studio. Dans ce genre, on trouve évidemment à boire et à manger, mais certains cinéastes s'y épanouirent formidablement, tel ce Chusei Sone, qui signe donc ce sidérant Angel Guts Classe Rouge, mais aussi dans la même série Super Gun Lady, deux films de 1979. Une vraie découverte que ce Chusei Sone, Mathieu Macheret.
Ben oui, Antoine, d'ailleurs, on lance un appel à rétrospective, hein, parce qu'on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur lui. Il n'y a pas de films qui sont sortis en France, hormis ces quelques éditions. En tout cas, Chusei Sone nous apparaît d'emblée comme un spécimen d'infiltré, c'est-à-dire un styliste inattendu dans un cadre hyper contraignant, le plus contraignant qui soit, c'est-à-dire le roman porno, comme vous l'avez dit Antoine, le filon érotico-soft auquel se consacre le studio historique, la Nikkatsu, au début des années 70, pour échapper à la faillite et résister à l'effondrement du système des studios. Alors, faut rappeler un petit peu ce que c'est que le roman porno. C'est moins un genre qu'un système industriel très codifié. Il y a une durée standard, autour de 70 minutes, une semaine de tournage, pas plus, un budget plafonné, c'est-à-dire trois fois rien, afin de sortir 2 à 3 films par mois, on est dans l'abattage. Autre clause, une scène de sexe toutes les 10 minutes environ, à quoi s'ajoutent encore les prérequis de la censure japonaise qui prohibe toute représentation de poils pubiens. En revanche, aucune directive dans le roman porno ne pesait sur le sujet, le scénario ou le ton adopté. Pour peu qu'ils acceptent cette structure rigide, les réalisateurs sous contrat se retrouvaient complètement libre. D'un carcan industriel implacable a jailli donc la production la plus anarchique qui soit. En tout cas, une fabrique de prototypes fous et transgressifs aux sujets politiques et sociaux et à la fibre souvent révoltée. Alors dans le roman porno, il y a eu des tâcherons et des artisans bien sûr, mais aussi de véritables cinéastes qui en ont surgi. Tatsumi Kumashiro, Masaru Konuma, Noboru Tanaka et cet étonnant Chusei Sone, donc un cinéaste moderne et désespéré qui est né dans ce cadre. Chusei Sone, il est né
Yoshitada Sone en 1937. Il entre à la Nikkatsu à la fin des années 50, au moment où le studio est encore florissant. Point important de sa formation, il commence comme assistant de Seijun Suzuki, cinéaste hyper formaliste, connu pour ses tournages anarchiques lui aussi, où tout s'invente sur le moment. Il contribue même, Chusei Sone, à l'écriture de son film le plus connu, La Marque du Tueur, qui provoquera le renvoi de Seijun Suzuki de la Nikkatsu. Pour ceux qui connaissent ce cinéaste qui fait l'objet d'un culte, ça pose un petit peu le profil de Chusei Sone. Alors, ces deux films édités par le chat qui fume, il faut le dire, ils sont complètement fous. Il y a Super Gun Lady, un polar féminin ultra-violent, et Angel Guts, Classe Rouge, une virée sans retour dans les tréfonds du désir. Le film s'inscrit dans une série adaptée d'un manga éponyme de Takashi Ishii, qui fera lui aussi des films. Une série de mangas qui met en scène le personnage féminin de Nami, une figure de jeune femme bafouée. Alors ici, dans Classe Rouge, un homme assiste à une projection clandestine et surprend dans une bande crapoteuse le visage d'une jeune femme qui, dès lors, ne cessera plus de l'obséder. Il la retrouve guichetière d'un love hotel et se lance avec elle dans une tentative d'amour bancal, déphasé, rendu impossible dans cette modernité avide où la sexualité a été intégralement accaparée par le mercantilisme. Alors, ce qui marque d'abord dans le film, c'est sa réflexivité. Dès la première scène, c'est une scène de projection. On est vraiment dans ce dispositif dévoilé. La pellicule casse, la lumière se rallume sur les spectateurs clandestins et on voit tout de suite l'illicite de la position du spectateur. Mais le héros, Muraki, est lui-même un pornographe de métier. C'est un rédacteur en chef de magazine de charme qui organise des shootings érotiques. Donc plusieurs scènes nous plongent au cœur de ces tournages, qui renvoient évidemment aux conditions de tournage de la Nikkatsu et du roman porno. Souvent en intérieur, le film ne retient de l'extérieur que des décors effarants, des grosses barres d'immeubles écrasants qui bouchent l'horizon, des voies de communication tonitruantes, des ruelles sordides, des terrains vagues glauques. Dans ce décor, la sexualité est renvoyée comme tout le reste à une valeur d'échange. Elle est une image qui se fabrique et qui se vend. Et dans ce monde, le désir a intégralement disparu, y compris au cœur de la sexualité. Les étreintes sont convulsives, spasmodiques, ou alors le siège d'un long épuisement. Sone, il s'occupe moins de dérouler une intrigue que de la tailler en lambeaux. La progression du film, elle aussi, est convulsive. Elle s'arrache plan par plan à travers coupes franches, ruptures de ton et grosses dissonances. Sone privilégie les longues prises, épuise les durées par l'étendue horizontale du cadre et sa composition très sophistiquée. Il explore toutes sortes de glissements perceptifs. Une lumière de fin de journée dans un appartement qui vire au fauve flamboyant. Un miroir déformant qui transforme des amants en une sorte de cauchemar psychédélique. Chaque scène ouvre un espace de performance pour les corps qui s'épuisent ou qui s'affrontent. Mieux, Sone déniche des angles complètement fous qui piègent ou capturent le regard dans des positions impossibles. Par exemple, dans la brèche d'une braguette. Ces personnages, staccanovistes du sexe, courent éperdument aux trousses d'un désir dont ils ont été déchus dans un dédale de ruelles humides, de pioles exiguës, de barres perdues qu'ils traversent comme une succession de décombres aux couleurs enfiévrées. Dans cette histoire d'amour tordu, l'amour est ce qui ne se consomme pas. C'est un rendez-vous manqué qui se vit à distance. La rencontre est impossible. L'homme court après ses fantasmes sur un mode obsessionnel et la femme se les assimile pour en dégorger toute la fange. Entre les deux s'interpose quelque chose qu'on ne peut pas traverser. Une image où s'abîme tout le réel. Cette image, c'est celle que Sone fait danser dans ses plans comme à travers un miroir brisé.
On a dead end street.
Merci Mathieu Macheret. Angel Guts, Classe Rouge et Super Gun Lady de Tsusai Sonne, c'est en Blu-ray au Chat qui fume, tout comme aussi Star of David, Vice et Sévis, Assaut Jack l'Éventreur et None dans l'Enfer des Cordes. Tout un programme. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Benjamin Thuot, Nicolas Bonnet et Anthony Thomasson. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.